bienvenue au service francophone vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 7 mars 2014. Chérubin, Gabi Dorcil à Washington, accompagné de Morgane Guériec. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
À la une de cette édition, verdict de condamnation à la CPI contre l'ex-chef de milice congolais Germain Katanga.
Ces crimes-là ont été commis le 24 février 2003 lors d'une attaque lancée contre le village de Bogoro, situé dans le district de l'Ituri en République démocratique du Congo.
Remous dans le 6e arrondissement de Bangui, les habitants protestent contre l'éventuelle arrivée d'ex-éléments de la Séléka. Crise en Ukraine, Kiev annule le projet de référendum en Crimée. Journée internationale de la femme le 8 mars, nous parlerons ce soir de l'ONG Africa Femmes Performantes.
Courage. Je sais que les autres, ils ont tendance à nous décourager parce que la tendance, c'est de ne pas laisser passer les femmes.
Ces points et d'autres, et nos pages sport et musique, après le journal.
Jugement de la Cour pénale internationale. Ce vendredi, Germain Katanga a été déclaré coupable de 4 chefs de crimes de guerre et un chef de crime contre l'humanité. L'ex-chef de milice congolais était accusé notamment de complicité de meurtre et pillage. Il encourt une peine allant jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité. La sentence sera rendue après le 24 mars, la date butoir pour le procureur et la défense de faire appel du verdict. Les réparations pour les victimes seront aussi connues prochainement. Pour d'autres précisions, Jacques Aristide a contacté le porte-parole de la CPI, Fadi El Abdallah.
Ces crimes-là ont été commis le 24 février 2003 lors d'une attaque lancée contre le village de Bogoro, situé dans le district de l'Ituri en République démocratique du Congo. Il y avait d'autres charges également, mais qui ont été rejetées par la Chambre, considérant que les éléments de preuve présentés devant elle ne lui permettait pas de forger une conviction au-delà de toute doute raisonnable que pour les charges des 4 chefs de crime de guerre et un chef de crime contre l'humanité. Alors, la Chambre a constaté qu'il y a eu des crimes de violence sexuelle et de viol, ainsi qu'une présence d'enfants soldats lors de l'attaque, mais elle n'a pas prouvé que les éléments de preuve lui permettaient de se forger donc une conviction.
À Bangui, les habitants du 6e arrondissement ont barricadé l'avenue Semak pour protester contre le possible transfert dans le secteur d'un contingent d'ex-Séléka. La réaction du gouvernement n'a pas tardé. Le ministre de la Sécurité publique, Denis Wangao Kizimale, parle de fausses rumeurs. On fait le point avec Nicolas Pinot.
Oui, les manifestants venus des quartiers 92 Logements, Pétévo et Fatima ont érigé plusieurs barricades sur l'avenue Semak aux premières heures de la matinée ce vendredi. Ce qui a mis le feu aux poudres, une rumeur faisant état du transfert des ex-rebelles Séléka dans l'école de gendarmerie de Kolongo. Justine Makaki est maire du 6e arrondissement.
Les barricades justifient tout simplement la population est au courant qu'on doit venir faire baser les Séléka de RDT au niveau de Kolongo. C'est ça la raison. Je me suis renseigné auprès des Burundais. Ils ont confirmé que le gouvernement prend sa responsabilité. Pourquoi venir faire baser les Séléka dans le 6e? Je peux dire que c'est le seul arrondissement qui est calme. Il y a plein de déplacés ici chez nous.
La réaction du gouvernement centrafricain ne s'est pas fait attendre. Pour Denis Wangao Kizimale, le ministre centrafricain de la Sécurité publique, il s'agit de fausses rumeurs.
Il y a des rumeurs qui circulent dans la ville de Bangui et particulièrement dans l'arrondissement de Pétévo, selon laquelle les ex-combattants Séléka devaient être cantonnés à l'école de la gendarmerie. Or, c'est faux! Ni moi qui vous parle, ministre de la Sécurité, ni le ministre de la Défense nationale, personne de nous deux n'a donné ces instructions. En tout cas, ces rumeurs sont fausses et archi faux. Nous n'en avons jamais discuté de notre vie.
3 personnes auraient été touchées par balles suite à l'intervention des forces de l'ordre pour disperser les manifestants. Un peu plus tard dans l'après-midi, 2 hommes soupçonnés d'appartenir à l'ex-coalition Séléka ont été lynchés à mort par des anti-balaka à combattants non loin de l'aéroport de Bangui.
Dans le nord du Mali, une dizaine de combattants d'ACMI ont été tués par des avions de combat et des hélicoptères français. C'est ce qu'a annoncé le ministre français de la Défense. Jean-Yves Le Drian affirme que l'opération a été menée dans la nuit de mardi à mercredi dans la vallée de la Métataille.
C'est le lundi 10 mars prochain que doivent reprendre les pourparlers entre l'opposition et la majorité présidentielle au Burkina Faso. Ces négociations entrent dans le cadre de la médiation dirigée par l'ancien président burkinabé Jean-Baptiste Ouédraogo pour tenter de régler la crise politique dans le pays. Mais aboutiront-elles vraiment à une... En fait, c'est la question que l'on se pose. Hier, l'opposition a insisté pour que la majorité présidentielle produise un mandat signé des mains du président du Faso. Zéphirin Diabré est le chef de file de l'opposition.
Nous avons une position qui est que les personnalités qui sont là, en fait, représentent des partis politiques. Vous voyez, donc, de ce point de vue, ces partis politiques la soutiennent le chef de l'État. Rien ne dit que non seulement ils parlent en son nom, et encore moins qu'ils ont pouvoir de négocier à son nom. Vous voyez, ce n'est pas le premier ministre qui est envoyé, par exemple. C'est des personnalités qui sont là parce qu'ils représentent ce qu'on appelle des partis de la majorité. Alors, pour la question qui est en jeu, nous estimons qu'il est quand même important qu'on ait un signal très clair et très fort de la part du chef de l'État lui-même, et qu'il donne donc, s'il le veut, il a un mandat pour qu'il vienne discuter. Si c'est pendant, par exemple, le premier ministre, là, en fait, c'est du point de vue institutionnel, il ne peut pas le faire sans un mandat au pouvoir de soi. Mais là, on a affaire à des états de parti, et donc nous sommes très, très prudents. Lundi matin, si nous allons à la rencontre, qu'ils ne sont pas à même de produire un mandat du chef de l'État, la réunion ne dira pas plus de 3 minutes.
Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition burkinabé.
En Afrique du Sud, la grève continue dans les mines de platine. D'après les estimations, quelques 5000 personnes ont défilé à Pretoria. L'objectif de cette marche pacifique, organisée par le syndicat AMCU, était de donner une pétition au président Jacob Zuma. Ces mineurs réclament un salaire minimum de 1 200 $. Mais hier, les négociations ont échoué. La grève perdure depuis 6 semaines.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise en Ukraine, le président intérimaire de l'Ukraine, Oleksandr Tochinov, a signé un décret annulant le projet de référendum en Crimée pour un rattachement à la Russie. Mais les officiels criméens soulignent que la consultation aura lieu le 16 mars, comme prévu. Idrissa Seloudia.
Le référendum a été programmé hier pour le 16 mars par le Parlement de la Crimée, lors de son vote que M. Turchinov a qualifié de farce, tout en accusant l'armée russe d'avoir tout orchestré. L'intégrité territoriale de l'Ukraine sera protégée et le Parlement ukrainien va engager, a-t-il annoncé, la procédure de dissolution de celui de la Crimée. De son côté, le Premier ministre Arseniy Yatsenyuk a averti que personne dans le monde civilisé ne reconnaîtra les résultats du référendum. Les leaders européens et américains, dont le président Barack Obama, ont déjà qualifié d'illégal ce référendum. Mais pour citer les officiels criméens, Kiev ne pourra pas faire dérailler le référendum en Crimée. Il aura lieu comme prévu le 16 mars. Et à Moscou, il y a cette déclaration de la présidente de la Chambre haute du Parlement russe, Valentina Matviyenko. Selon Valentina Matviyenko, les membres du Parlement russe appuieront la Crimée si elle décide dans son référendum le rattachement à la Russie. À noter que des dizaines de milliers de gens ont participé aujourd'hui à Moscou à une manifestation de soutien aux autorités pro-russes de la Crimée.
Sachez aussi que le responsable du Comité paralympique national d'Ukraine, Valery Sushkevich, a déclaré que son pays ne participera pas aux Jeux paralympiques de Sotchi si la Russie aggrave le conflit militaire en Crimée. Pour l'instant, la volonté des Ukrainiens, c'est d'être présents à ces Jeux, a-t-il ajouté. Les Jeux paralympiques qui suivent les Jeux d'hiver commencent aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain est en Jordanie dans le cadre des efforts visant à forger un accord de paix entre Israël et l'autorité palestinienne. Selon le département d'État, John Kerry est arrivé ce vendredi à Aqaba, sur la mer Rouge, où il devait rencontrer le roi Abdullah. Le chef de la diplomatie américaine espère annoncer d'ici fin avril un accord cadre à l'occasion de la clôture de l'actuel round de négociations entre les deux parties. Peu de détails ont filtré autour de ces pourparlers.
La campagne électorale s'intensifie en Afghanistan. Le grand frère du président Hamid Karzai, Kayoum Karzai, a confirmé aujourd'hui son soutien à l'ancien ministre des Affaires étrangères, Zalmay Rassoul. C'est, dit-il, dans le but d'unifier l'Afghanistan. Hamid Karzai ne peut pas être candidat à sa réélection et il a déclaré ne soutenir aucun candidat.
Économie américaine, 175 000 emplois ont été créés en février, mais le taux de chômage a légèrement augmenté, passant maintenant à 6,7%. Le rapport a été communiqué ce matin par le département américain du travail. Et rappelons qu'il y a 10,5 millions de chômeurs aux États-Unis et plus d'un tiers d'entre eux sont sans emploi depuis au moins 6 mois. Voilà pour le journal, 18h40 en temps universel, 13h40 à Washington, ici chez Roubaix d'Orsil en compagnie de Morgane Guériec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Et on reparle de la Centrafrique, Morgane, où les violences sont quotidiennes.
Hier, le Conseil de sécurité a tenu une réunion sur la situation dans le pays. Une réunion suivie par Maître Mathias Moruba, le président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme, qui était dans nos studios aujourd'hui. Il revient sur les difficultés actuelles dans son pays.
Soyons réalistes, il faut dire qu'aujourd'hui, l'État centrafricain est en mal de sécuriser l'ensemble du pays. Simplement parce que l'armée aujourd'hui ne fait pas son travail. Cette armée n'existe que de nom pour le moment, puisque de toute façon, ils n'ont pas les moyens pour faire leur mission, accomplir leur mission. C'est la raison pour laquelle la communauté internationale est intervenue.
Face à toutes ces difficultés, personne n'ose avouer que le scénario est presque impossible d'organiser des élections d'ici février de l'année prochaine. Qu'en pensez-vous ?
Les élections, comme on le dit, c'est un processus. Ce processus doit commencer d'abord par l'identification des électeurs. Mais vous savez, aujourd'hui, les électeurs sont où ? Ils sont dans la nature. Certains sont à l'étranger. D'autres, encore dans les sites des personnes déplacées, etc. Comment voulez-vous qu'on organise des élections dans une situation d'insécurité totale et dans une situation où le pays est quasiment divisé en deux ? Comment accéder dans ces zones qui sont un peu plus loin pour ceux qui pensent qu'il faut aller aux élections? Ça pose problème quand même. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire que nous sommes prêts à organiser une élection. Ce n'est pas réaliste. Et c'est pour cette raison que nous avons dit qu'il est important pour nous d'avoir une opération de maintien de la paix.
L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba est actuellement jugé à la Cour pénale internationale. C'est un dossier que vous suivez de près. Quel parallèle faites-vous entre la situation il y a 10 ans et la situation que connaît la Centrafrique aujourd'hui ?
Juger Jean-Pierre Bemba, c'est une chose. Lui, il est déjà à la barre, mais ça ne suffit pas. Quand ça s'est passé en 2002-2003, il y a aussi eu d'autres acteurs qui n'ont pas centrafriqué, qui n'ont jamais été inquiétés jusqu'à jour d'aujourd'hui. Nous pensons que la Cour pénale internationale fera en sorte que certains centrafricains qui sont responsables de ces crimes de 2002-2003 soient effectivement jugés aussi, comme c'est le cas de M. Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, malheureusement, on retrouve parmi les présumés auteurs de ce qui se passe sur le terrain certains des responsables des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui avaient eu lieu en 2002-2003. Le fait qu'on n'ait pas pris en compte la situation de ceux qui étaient responsables ou présumés responsables de ce qui s'était passé en Centrafrique, ça permet aujourd'hui aux gens de penser que l'impunité devient la règle. Et ça nous pose problème.
C'est Maître Mathias Moruba, le président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme, qui a été interviewé par Nicolas Pinault.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Nous partons maintenant en République démocratique du Congo pour notre rubrique quotidienne, les 100 citoyens journalistes. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur Facebook et sur le site internet lavoixdelamérique.com.
Charlie Kassereka pour 100 citoyens journalistes et ville de Goma, donc Kivu. À Goma, l'autorité urbaine a lancé une opération d'enregistrement des taximens de moto. Et pour cela, la mairie a mis en place un logiciel qui va servir d'une base de données pour connaître toutes les identités et les adresses de tous les conducteurs des motos qui circulent dans la ville. Pour les maires de la ville, M. Nasson Ndole Kubuya, ainsi que la police, qui insistent sur cette mesure pour limiter le cas de banditisme qui se commettait les jours comme la nuit dans la ville de Goma. Et ces cas de cambriolage et même de tuerie étaient facilités par la moto qui facilitait bien sûr ces bandits à fuir loin de la ville. Et du coup, cette opération a conduit à la hausse des prix d'une course de moto dans la ville. Pour trouver une moto, il faut faire de longues distances et surtout avoir une bonne somme d'argent sur soi. Le nombre de motos qui font le transport en commun a été réduit 5 fois moins que la normale.
La Voix de l'Amérique s'associe à 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Grâce à des téléphones portables, ces observateurs seront les témoins de tout ce qui se passe au Congo. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur la page Facebook 100 citoyens journalistes et sur notre site www.lavoixdelamerique.com. Mais aussi leurs témoignages tous les jours dans nos émissions destinées à l'Afrique centrale.
Le 8 mars, donc demain samedi, c'est la Journée internationale de la femme, une occasion de parler de la situation de la gente féminine et des moyens de l'améliorer.
Certaines femmes disent que la meilleure façon d'améliorer les conditions de leurs sœurs et celles de leur famille, c'est de leur offrir une meilleure éducation, mais aussi les moyens de mettre à profit leurs talents naturels et ainsi de contribuer au développement de leur communauté.
Et c'est justement ce qu'essaie d'accomplir une organisation panafricaine dénommée Africa Femmes Performantes. Elle tient une réunion ici à Washington de jeudi à samedi à l'occasion de la Journée de la Femme. Il s'agit entre autres de préparer le 7e congrès international de la femme africaine prévu à Bangui en Centrafrique en novembre prochain. Nous avons rencontré l'une des participantes.
C'est donc une ONG internationale qui regroupe les institutions, les organisations de femmes à travers l'Afrique et bien entendu Haïti, puisque Haïti est un dérivé de l'Afrique. Le SADEC, ONG haïtienne dont je suis la présidente, est membre de Africa Femmes Performantes.
Inès Joseph est avocate, entrepreneur en agriculture et membre du conseil de direction de Radio Lumière, une station privée à Port-au-Prince, en Haïti. Elle a été honorée l'année dernière de la Palme de l'excellence féminine à Abidjan. Le but de ce prix est de reconnaître à l'échelle du continent africain et au-delà les femmes chefs d'entreprise qui font une énorme contribution aux économies africaines et mondiales ainsi qu'à leur communauté.
Je travaille en Côte d'Ivoire, à Abidjan, particulièrement à la commune de Dadikwa, où j'ai mes plantations de légumes.
Et vous avez fait des expériences avec des femmes là-bas, dans le domaine de l'agriculture?
Absolument. Nous plantons les légumes, nous les vendons en Côte d'Ivoire. Je vends les produits de l'agriculture, j'achète pour les femmes des bottes, des outils aratoires et j'achète aussi des machines de production. Nous recevons difficilement de l'aide, mais pour assurer la permanence, enfin, vous devriez compter que sur la force de votre travail, vos bras, vos connaissances, vos capacités, vos aptitudes.
Si vous aviez à vous adresser à vos consoeurs africaines à l'occasion de cette journée internationale de la femme, que leur diriez-vous?
Je dirais à Elodie, qui m'écoute au Congo, courage. Je dirais à Innocence Ndiaye, qui est ministre du Commerce au Sénégal, courage. Je dirais à Patricia Seke, qui est présidente de Africa Femmes Performantes, courage.
Courage, c'est un maître mot.
Oui.
Qui traduit quoi exactement?
Je sais que les autres, ils ont tendance à nous décourager parce que la tendance, c'est de ne pas laisser passer les femmes. J'ai commencé à travailler en Haïti. Je n'avais pas trouvé d'encouragement jusqu'au moment où maintenant, on commence à me prendre avec ce que j'ai fait ailleurs au sérieux.
Inès Joseph, que j'ai accueillie en nos studios cet après-midi.
Retrouvez La Voix de l'Amérique sur votre portable. Les dernières informations, nos photos et vidéos, rendez-vous sur fr.voa.mobi. Tapez fr.voa.mobi et suivez la VOA partout dans le monde avec votre mobile.
Clôture demain à Abidjan du marché et des arts du spectacle africain, le Massa, ouvert le week-end dernier. Des artistes et promoteurs de spectacles de divers pays africains y prennent part. Timothée Donangmaï, adjoint à Abidjan, Luc Mailly Toukou, membre du comité artistique du Massa 2014.
Nous avons connu une interruption de près de 7 années et donc c'est déjà une relance après tant d'années d'interruption et puis avec tout ce qu'on a connu sur Abidjan. Et la seconde particularité, c'est la dimension vraiment festival qui marque cette réouverture, ce relancement du Massa.
Quel est le niveau de participation à ce Massa de relance?
Le niveau de participation en termes d'invités, on est à près de 1000 invités, et dont 500 artistes prévus. Et ça, c'est dans les prévisions, mais nous sommes à 90% de personnes prévues qui sont arrivées.
Le Massa, c'est donc le marché des arts. Qu'est-ce qui est à vendre aujourd'hui?
C'est le marché des arts et des spectacles africains. C'est le lieu où on arrive à présenter vraiment la panoplie de la création africaine, la création contemporaine africaine, aussi dans plusieurs disciplines, que sont le théâtre, le conte, la musique et la danse. Cette année-ci, nous avons rajouté le conte qui ne faisait pas partie de l'ancienne édition, donc c'est tout nouveau. Mais c'est l'une des particularités que nous avons.
Est-ce que vous avez l'impression que les participants arrivent à placer leurs produits, leurs émissions lors de ce Massa?
Oui, je pense que déjà, il a été annoncé plusieurs contrats déjà signés pour certains artistes parce que les créations qui ont été présentées sont quand même de qualité. Et puis, les contacts se font, chacun refait son marché et chacun redécouvre des groupes qu'il connaissait mais qu'il n'avait jamais vu sur scène. Parce que c'est ça la particularité, c'est qu'on met les artistes sur scène et les programmateurs les voient en direct. Donc oui, on a déjà annoncé la dernière fois que les programmateurs avaient signé avec des groupes du Kenya, avec des groupes du Cameroun. Ça va, donc on refera le bilan pour avoir les chiffres exacts.
Qu'en est-il de la participation populaire?
L'affluence est grande tous les jours, tous les soirs au village du festival, mais aussi dans les autres plateaux périphériques, parce que le district d'Abidjan a pu mettre en place différents plateaux dans les quartiers. Et c'est grâce à ça, et c'est gratuit. Et la chose intéressante, c'est que tous les plateaux étaient gratuits, sauf celui de l'ouverture et celui qui va se faire demain pour la clôture.
Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, place au sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Alors, on commence en football, Ligue africaine des champions.
Eh oui, auteur du match nul sur la pelouse de Kabouskor 0-0, le Zamalek s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. Les Chevaliers Blancs ont tenu le choc sur la pelouse de Luanda. Et puisque vous suivez le football africain, évidemment, Chérubin, vous vous souvenez que Kabouskor, c'est le club de 13 ans Poutou, hein, l'ancienne gloire des Corbeau de Lubumbashi. Dimanche, l'autre club égyptien Al Ahly, battu à l'aller par les Tanzaniens de Young Africans 1-0, tentera de rejoindre son grand rival local.
Autre match demain?
Eh oui, on aura l'AS Real, le club malien qui reçoit Enimba à Bamako après la victoire 2-1 à l'aller au Nigeria. Et puis l'Espérance de Tunis contre Gor Mahia, le club kényan, le Raja Casablanca qui devra faire un peu plus que le match aller en Guinée après la défaite 1-0 face au Oroya FC. Et puis la Sfaïa Nenga qui a très peu de chance au stade du 4 août à Ouagadougou après la claque subie en Algérie 5-0 contre évidemment Sétif. Et le Primero de Agosto qui reçoit l'AC Léopard de Dolisi après la défaite 4-1 à l'aller.
On joue aussi ce soir, Nicolas, si je ne m'abuse, en Coupe de la Confédération.
Oh, il est très fort ce chérubin, les 16e de finale retour qui débutent ce soir. Et la grande désillusion pour le CARA de Brazzaville. Les Congolais ont été battus 3-0 par l'Étoile du Sahel en Tunisie. Autre rencontre tout à l'heure, l'AS Kigali du Rwanda qui tentera de conserver son avantage d'un but sur la pelouse d'Al Ahly Shandi au Soudan.
La NBA, championnat de basket nord-américain.
Rien ne va plus, humilié par les Clippers de Los Angeles, 142-94 la nuit dernière. Les Lakers de Kobe Bryant blessés ont conforté leur place de bon dernier de la conférence Ouest. Ils en ont aussi profité, chérubin, pour subir la plus grosse déconvenue de leur histoire.
Et ça prouve à quel point cette équipe, Nicolas, dépend de Kobe Bryant.
Oui, il y a une dépendance et puis c'est des joueurs un petit peu anciens et c'est vrai que c'est une franchise qui a été longtemps la grande franchise de l'Ouest américain et c'est vrai que là, ils sont un petit peu sur le déclin. Et les Clippers ont l'habitude de dire que Los Angeles, c'est la ville des Lakers. Et c'est en train, depuis deux saisons en tout cas, de changer un petit peu. Autre résultat, chérie.
J'allais dire qu'il y a pas mal d'anciens à San Antonio. Pourtant, là-bas, c'est pas trop mal.
À Tim Duncan, impressionnant. Justement, San Antonio qui a facilement remporté les remakes des dernières finales NBA face à Miami, 111-87. Increvable, les anciens des Spurs qui sont sur le point de prendre la tête de la Conférence Ouest. Puisque dans l'autre rencontre de la soirée, Oklahoma City s'est imposé à Phoenix. S'est incliné contre Phoenix 122-128.
Et si je dis du bien de San Antonio, c'est pas seulement parce que je suis un fan des Spurs, c'est parce que tout simplement c'est la vérité, quoi.
Ah oui, puis ils sont vraiment exceptionnels. Tim Duncan sur un parquet à 38 ans, c'est quelque chose à voir.
Ça, il faut le faire. Nicolas Pinault pour les sports. Après un lobby assez réussi, Roger Muntou a réussi par convaincre Morgane Guerriec de lui accorder un peu plus de temps ce soir pour la musique.
Mais écoute, la journée internationale de la femme, donc elle est gentille pour nous.
On commence déjà aujourd'hui.
Hein. Qu'est-ce que tu as pour moi ?
Roger et moi, nous saluons le pantalon de l'homme.
vous deux là, je sais pas. Et puis elle va parler de la jupe aussi, hein, mini jupe. Hein,
ouais, la mini jupe. Les mini jupes des femmes.
Allez, Morgane, c'est la page musique.
C'est la page musique, donc on écoute Roger. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui ?
Exactement, Morgane. Hein, nous sommes déjà, nous, comme je le disais tantôt, dans l'ambiance de la Journée internationale de la femme. Et à cette occasion, l'artiste Top One Frisson nous dit pourquoi il adore chanter pour les femmes et nous laisse écouter en exclusivité sa chanson « Beautiful Mother ».
J'aime beaucoup les chœurs pour les femmes, qui nous donnent la vie, elles ont le pouvoir. Et puis sur le prochain album aussi, qui fout l'impaka, qui veut dire « Never give up », j'ai aussi fait un titre pour les mamans, dans lequel je dis que toutes les mamans sont belles. Je l'appelle « Beautiful Mother ». C'est une exclusivité parce que c'est pas encore sorti, pas sur les ondes, et c'est un cadeau pour les mamans. La femme, c'est un être très important pour la société. C'est par la femme que nous sommes nés, donc on devrait continuer à la remercier sans lâcher, quoi.
Yeah, this is Top One Frisson and Raj. Yeah, BMC Pro. Listen to it.
Nani alinga kama mana itatombola mosa pito mune. Yende motonza mbapona kipwa boko lobiso hawa ose. Mama linga kateko tala mwana nena kati ya soufansi. Ye motoko kipa kabiso.
Voilà, donc Top One Frisson, qui a fait ses premiers pas dans la musique en 1987 au Congo-Brazzaville, au sein de son premier groupe, Velsi Kimpiala.
Ouais, exactement, Morgane, 1987, je ne suis pas encore né, moi. Ça va.
Tu veux qu'on dise quelle âge
tu as là ? Non, il ne faut pas dire mon âge.
On ne va pas dire ça.
On va pas dire ça.
Je voulais voir l'acte de naissance.
Mais écoute, Morgane, après ses études en Algérie, sans nouvelles de ses parents, suite à la guerre au Congo, il s'installe en France. Dès là, il intègre le groupe Les Jeunes Premiers, avec lequel il enregistre deux albums. Depuis 2008, il développe une carrière solo.
Yeah.
Voilà, c'était Top One Frisson, Beautiful Mothers. Merci Roger.
De rien Morgane.
Voilà, Roger Muntou que vous suivez tous les soirs à 20h, temps universel dans le RM Show.
Ici s'achève Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Joselle Morissin a dirigé la mise en onde. Jackson Witt et Mr. Remkes étaient à la console technique. Un grand merci à toute la rédaction. Laissez-nous vos messages sur fr@voanews.com. Ici Chérubin Gabi Dorsil
et Morgane Guiriec.
Bonne fête à toutes les femmes demain. On se retrouve dans une demi-heure.